Le récit de Layli. Troisième chapitre. Je suis devenue aveugle à 13 ans. Vous allez avoir du mal à me croire. Il ne m'en reste aujourd'hui qu'une certaine gêne au soleil. L'obligation de porter des lunettes noires. Ma collection de lunettes n'est pas une coquetterie, Guy. Pas seulement. C'est le souvenir de cette longue période de ma vie. Ma période noire. Comme Picasso a eu ses périodes roses et bleues. Comment ai-je retrouvé la vue? C'est une longue histoire. Une autre histoire que je vous raconterai plus tard. Peut-être plus incroyable encore que celle-ci. Mais commençons par le commencement. Encore aujourd'hui, je n'arrive pas à trancher. Savoir que j'allais devenir aveugle, comme le médecin du dispensaire l'annonça froidement à mon papa, comme mon papa me l'annonça les larmes aux yeux, la seule fois de ma vie où j'ai vu mon père pleurer, a-t-il été une chance ou une malédiction? Un peu les deux, je crois. Devenir aveugle, bien entendu, me désespérait. Mais pouvoir m'y préparer fut inespéré. J'ai vécu de 11 à 13 ans, plus de 30 mois, avec cette certitude que le noir finirait par l'emporter. Mois après mois, les jours devenaient plus courts. Les matins et les soirs plus sombres. Les lignes sur mes cahiers devenaient pâtés, pattes d'araignée, fleuves de goudron, puis mer d'encre. Mes yeux avaient beau s'écarquiller, je m'enfonçais dans une nuit sans fin. C'est une sensation étrange, croyez-moi, de voir ainsi le monde partir dans le néant, basculer, disparaître alors que vous, vous allez rester. C'est presque l'inverse de la mort, si l'on y pense. C'est ainsi que je me rassurais. Je jouais à un jeu de Kim géant. Je me bandais les yeux et je devais me souvenir de tout. Les aveugles de naissance étaient bien plus à plaindre que moi. Eux ignoraient les milliers de nuances des couleurs, la grâce du vol d'un papillon, la beauté d'un sourire sur un visage. Moi, si j'étais maligne, ma cécité serait même à peine un handicap. Seulement un jeu de concentration. Il me suffisait de développer mes quatre autres sens et ma mémoire ferait le reste. Un miaulement et je suivais les pas du chat. Une odeur de beurre de karité et je participais à la joyeuse toilette des femmes du village. Pendant ces 30 mois, je suis devenue une caméra qui enregistrait tout. Je me suis gavée d'images, de paysages, de photos, de films. Tous les magazines que papa pouvait me trouver, tous les reportages qui passaient à la télé de l'hôtel Joliba, où l'on me laissait entrer. Ma maîtresse, Madame Fanet, me disait que je devenais intelligente, plus que tous les autres jeunes du village, que c'était ma chance, que je musclais mon cerveau quand les garçons musclaient leurs cuisses à taper dans un ballon. C'est Madame Fanet qui, la première, m'a surnommée la chouette. Parce qu'elle pouvait voir dans le noir, parce qu'elle était l'animal préféré de la déesse Athéna, l'animal de la sagesse. De la sagesse et de la guerre. Puis un jour, j'avais 13 ans, 7 mois et 11 jours. Tout devint noir, définitivement. Je m'étais endormie le soir, en distinguant à peine les étoiles dans le ciel. Le matin, le soleil ne s'est pas levé. Nuit noire. Même si dans ma tête je pouvais positionner avec précision chaque constellation. J'ai oublié depuis, Guy. Aujourd'hui, je serais incapable de vous dire où se situent Orion, Vega ou la licorne. Mais à 13 ans, la carte du ciel et tant d'autres cartes étaient imprimées sous mon crâne. Bizarrement, à partir du jour où je suis devenue aveugle, les gens autour de moi ont commencé à me dire que j'étais belle. Au début, je pensais que c'était pour me consoler. Mais maman prenait ma main pour que je touche mes jambes qui s'étiraient, mes seins qui poussaient, ma taille qui se cambrait. J'avais pour modèle les mannequins des magazines, Naomi Campbell et surtout Katusha Nyan. Maman me dessinait un portrait robot mental, me racontait que j'étais moitié lionne, façon Tina Turner, moitié antilope façon Whitney Houston. J'avais du mal à la croire. Je pense même que je ne l'ai jamais cru. Je n'étais plus aussi jolie quand j'ai retrouvé la vue. Et on ne prenait pas de photographies à ses goûts. On disait de moi que j'étais belle, intelligente et aveugle. Peut-être qu'être aveugle évitait aux autres filles de mon âge d'être jalouses de moi. Peut-être que ma beauté me protégeait de leur pitié. On peut toujours trouver des arguments contre la fatalité. Je ne me sentais pas plus malheureuse qu'une autre. Peut-être que je refusais de me l'avouer. J'étais déjà si prétentieuse. Le temps a passé. Pendant des années, la rumeur a enflé. J'avais un peu plus de 17 ans quand elle s'est concrétisée. Une douzaine d'hommes et de femmes du village avaient décidé de partir. 7 hommes et 5 femmes exactement. Ils avaient rassemblé les économies de la plupart des familles du quartier du fleuve. Ils étaient les plus jeunes, les plus forts, les plus déterminés. Ils devaient d'abord traverser le désert, plein nord, pour atteindre la Tunisie, puis embarquer à Tabarka pour passer en Europe. J'ai dit à papa et maman que je voulais partir avec eux. J'ai mis 23 jours à les convaincre. Parmi ceux qui partaient, 3 étaient mes cousins. Je pouvais avoir confiance en eux. Ils seraient mes yeux, mes bras, mes jambes, mes guides. Je serais leur esprit, leur traductrice. Je parlais mieux français qu'eux et je connaissais un peu d'anglais et d'espagnol. Leur géographe. Je connaissais par cœur les villes que nous traverserions, les distances entre elles, le tracé des routes, les coordonnées des points d'eau. Tout était gravé dans mon cerveau. Leur guide. La traversée du désert dura 11 jours. Nous nous sommes embarqués pour l'Europe, dans une barque de pêche, presque aussitôt après avoir atteint Tabarka. Les frontières n'étaient pas aussi surveillées alors. Du moins, celles pour partir. Nous avons accosté à Mazara del Vallo, au petit matin, en Sicile. Je n'avais pas stocké dans ma mémoire beaucoup d'images de la Sicile, simplement celle du film Le Parrain, une photo de l'Etna, une gravure de Syracuse au temps d'Archimède. Pour le reste, Palerme, Marsala, les ruines d'Agrigente et de Sélinonte, l'île d'Ortigi, les balcons de Taormina, je n'ai pu que les imaginer. Nous avons effectué le dernier kilomètre de traversée, escortés par 3 vedettes de douaniers, et arrivés à Mazara, les carabiniers nous attendaient. Nous avons été conduits tous les 13 dans une sorte de camp, en compagnie de migrants qui arrivaient de tous les pays africains. On devait attendre qu'ils examinent notre dossier. Le lendemain, on s'enfuyait. Pas bien loin. Tous les cousins de Ségou se sont fait reprendre un par un. Faut croire qu'ils n'étaient pas très doués pour le cache-cache. Moi, si. J'étais restée recroquevillée dans un coin noir, immobile. C'est toujours ainsi qu'on gagne au cache-cache. Sans bouger, sans parler, sans même respirer. Les impatients se font toujours repérer. Fatia, la nièce de ma mère, m'apportait à manger et à boire tous les jours. Elle se débrouillait pour nous chaparder ce qu'elle pouvait. Puis, comme les autres, elle a fini par se faire prendre. Je suis restée. Seule, dans mon coin noir. Un appartement abandonné sur les hauteurs de la vieille ville d'Agrigente. Une pièce. Des toilettes. Une odeur permanente de ferraille brûlée et de soufre à cause de la fabrique de céramique en dessous. Je savais que je n'avais plus que 2 solutions. Me faire prendre moi aussi ou mourir dans ma cachette, affamée. J'hésitais, mais je crois que j'ai attendu le plus longtemps possible pour me résoudre à choisir la première solution. Je crois que j'attendais un miracle. Et il s'est produit. Croyez-moi si vous voulez, Guy, il s'est produit. Un jour, la porte de la cachette s'est ouverte. J'ai cru qu'il s'agissait d'un carabinier, d'un violeur. On m'avait tant répété que je plaisais aux hommes. D'un voleur. Mais que pouvait-on me voler? D'un tueur. S'il venait pour me tuer, il me laisserait des regrets. Il possédait une voix douce, chantante, presque féminine. J'ai senti sa main se poser sur la mienne. « Il ne faut plus avoir peur, mademoiselle. » C'était une voix, des mots qu'on avait envie de croire. Je les ai crus. Oh, comme je les ai crus. Oh, comme j'ai cru à ce miracle.